Cherki, shalom.
Shalom.
Merci infiniment de nous rencontrer, de m'accorder cet entretien. Nous nous trouvons à un moment historique unique. C'est les grands moments de l'histoire. Comme ça, on sent qu'on arrive à un grand moment de l'histoire pour la, pas la première fois, mais une des fois qui a été le plus spectaculaire. Un président américain est venu parler devant l'Assemblée d'Israël, la Knesset, donc devant le peuple d'Israël. Après avoir négocié, arrangé, signé un accord de cessez-le-feu pour le début d'une paix au Moyen-Orient, on va rentrer dans le sujet de Tzitati. Il y a eu des discours là-bas. Il y a eu Monsieur Ohana, le président de la Knesset, qui a cité Shavuvanim Begvulam.
Minayi kolech mi bechi ve'enayich mi dim'a ki yesh sachar lif'ulatech ne'um Adonai ve'shavu me'eretz oyev. ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם.
Il y a eu Yair Lapid, le chef de l'opposition qui a parlé, mais il y a surtout deux discours qui ont été très marquants, celui de Benjamin Netanyahu et celui de Donald Trump. Il y a eu, dans tous ces discours-là, 14 références au Tanakh, 14 références à la Bible, et je me suis dit que c'était pas possible.
À la Bible hébraïque.
À la Bible hébraïque. Ils n'ont pas osé prendre la Bible hébraïque, mais je me suis dit qu'on ne pouvait pas avoir 14 références à ça et pas demander à un rabbin d'où, avec Rav Cherki, ces références-là, d'où ils les tiennent, pourquoi les utiliser, dans quel but, etc. Mais avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet arabe, avez-vous eu l'occasion d'écouter ces discours en entier? Et si oui, quelle a été votre impression?
J'y étais, évidemment. J'ai pu assister à tous les discours. C'était passionnant, évidemment. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Ce qui est intéressant, d'abord, c'est qu'on a pu voir une réelle amitié entre le président américain et le premier ministre israélien. Ce n'était pas un jeu. Les expressions étaient des expressions très chaleureuses. Et ça correspondait, on pourrait dire, effectivement, à un moment historique où la relation des nations envers Israël change de côté. C'est alors que les amis d'Israël jusqu'à présent étaient les protecteurs d'Israël, on a le sentiment très net que les nations, tout en étant protectrices, les États-Unis, etc., mais elles ont le sentiment que c'est de Jérusalem que vient la lumière des nations. Et cette lumière est ressentie comme telle, les événements qui se passent font partie, si vous voulez, de l'histoire biblique. Une chose, disons, qui pour moi est évidente, mais qui n'était pas évidente pour tout le monde pendant très longtemps, c'est que le retour d'Israël sur sa terre, l'État d'Israël et toute l'histoire d'Israël, c'est en fait un événement biblique en pleine modernité. Et c'est ça qui est, disons, parfois difficile à avaler, mais c'est ça que commencent à comprendre les nations.
Ça veut dire utiliser l'ancien, la Bible, donc les vieux écrits, pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, c'est...
Ça veut dire que ces vieux écrits ne sont pas si vieux que ça. Ça veut dire que, en fait, la Bible continue. La Bible... Vous savez, il y a une expression qu'on employait parfois il y a très longtemps, dans ma jeunesse encore, on parlait de l'histoire sainte. Et l'histoire sainte est une expression d'ailleurs qui vient de la théologie chrétienne, parce que s'il y a une histoire sainte, ça veut dire qu'il y a une histoire profane. L'histoire sainte serait là où finit la Bible, et puis après commence l'histoire profane. Et ce que disait Manitou, c'est que la Bible nous enseigne que l'histoire est sainte. C'est-à-dire c'est l'histoire dans son ensemble qui est le lieu de la révélation, le lieu privilégié de la révélation. Et donc, il est tout à fait normal qu'après 2000 ans d'effacement du peuple d'Israël, donc de l'effacement de la parole biblique, cette parole biblique revienne en place. Or, ce qui est absolument surprenant, c'est que non seulement ça peut vouloir dire qu'éventuellement, ce serait la Bible qui interprète comme il faut l'histoire, mais pire que ça, ça voudrait dire que c'est la manière dont les enfants d'Israël lisent la Bible qui est la bonne. Or, ça, effectivement, ça révolutionne, ça bouleverse les habitudes de pensée, les théologies évidemment, et tous les réflexes innés de la communauté internationale par rapport au peuple juif.
Extraordinaire. Moi, on pourrait presque arrêter la vidéo là. Vous avez tout dit. Mais on va rentrer arabe, un peu dans le sujet. Bon. Moi, il y a un élément qui m'a frappé, mais il vous a frappé aussi parce que quand je suis arrivé chez vous, tout de suite on en a parlé, c'est la citation à Kohelet, à l'Ecclésiaste, ouais. Moment précis, et j'ai pris ce morceau-là et je le montrerai après à nos téléspectatrices, téléspectateurs. Voilà, hop.
The book of Ecclesiastes. It's not a book of action. It's a book of meditations, of thought, a perspective on life and on death. And in this book, we read the immortal words of King Solomon. To everything there is a season and a time for every matter under heaven. Et milchama ve'et shalom. A time for peace and a time for war. The last 2 years have been a time of war. The coming years will hopefully be a time for peace.
Alors, ce choix, il n'est pas anodin. L'Ecclésiaste, Kohelet, c'est un des livres les plus philosophiques, contemplatifs du Tanakh. Son auteur présumé,
comme un livre de sagesse.
Exactement.
Safianto.
Écrit par le plus sage des rois, le roi Salomon. Écrit par le roi Salomon, on en est sûr?
C'est la thèse de nos maîtres. Allez.
Et on peut dire que Salomon, c'était pas un roi guerrier. C'est-à-dire qu'il y avait David Améler, c'était le roi guerrier, celui qui a conquis, celui qui a conquis, et il a même pas eu le droit de faire le Bétamigdash parce qu'il y avait du sang, etc. Et le roi Salomon, enfin, est rentré dans ce Et Shalom-là et a créé ça. Moi, en entendant ça, j'ai bien sûr pensé à votre fils, tout de suite, Shalom, qui représentait ce être-là. Pourquoi Netanyahou a-t-il utilisé ce texte-là?
D'abord, tout simplement, il lit parce que on le lit à Sukkot. Mais je pense qu'il y a ici, quelqu'un lui a infiltré une idée. C'est une idée que j'ai repris moi-même dans certains de mes cours. C'est que il y a là-bas, dans le livre de Kohelet, dans l'Ecclésiaste, il y a 28 moments de l'histoire. Le moment de la naissance, le moment de la mort, etc. Or, si on partage les 6000 ans d'histoire, qui sont le cadre classique de l'histoire selon la tradition, alors on peut couper l'histoire en 28 morceaux. Et nous sommes précisément au moment où s'achève le moment de Et Milchama, le temps de la guerre, pour commencer le temps de la paix. Or, je me demande si peut-être quelqu'un aurait glissé ça, cette idée que j'ai pu formuler, si quelqu'un l'aurait glissé peut-être parmi les conseillers de Netanyahou, et qui donc il s'en est servi. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il y croit.
Mais alors, moi j'ai une petite question, parce que quand on parle de Et Milchama, Et Shalom, oui, on rentre dans une... On a fini une guerre. Mais est-ce qu'on rentre vraiment dans le Et Shalom, moi, ce que j'imagine dans Et Shalom, l'ère de la paix, c'est plus de problèmes, plus de guerre, plus de terrorisme. Plus... Et puis on voit que c'est pas ça. On a pu voir les vidéos.
C'est le temps de faire la paix. Mais rappelez-vous une chose aussi. Le Talmud dit que le mot Shalom désigne le temple de Jérusalem. Or, le temple de Jérusalem n'est pas simplement un lieu de culte. Ce n'est pas simplement une grande synagogue. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, c'est ce que les prophètes appellent le lieu de prière pour toutes les nations. Or, effectivement, on se rend compte de plus en plus que parmi nos ennemis, enfin parmi les populations des pays musulmans, il y a une prise de conscience que c'est les enfants d'Israël qui sont responsables de l'entretien de ce lieu de réunion de l'humanité et qu'ils y sont invités à venir faire leur prière, non pas en remplacement des enfants d'Israël, mais dans l'association avec les enfants d'Israël. Et donc, on ne serait peut-être pas étonné, étant donné l'accélération des événements ces dernières années, on ne serait peut-être pas étonné si, finalement, il y aurait une exigence de la part de l'humanité de reconstruire le Beth Amikdash, de reconstruire le Temple de Jérusalem. Et c'est ça le Et Shalom. Alors évidemment, vous savez que pour faire la paix dans le foyer, ça veut dire qu'il n'y a pas des tensions dans un foyer, c'est normal. Mais Et Shalom, ça veut dire que la préoccupation principale de l'humanité sera la paix et non pas la guerre.
C'est-à-dire jusqu'à maintenant, la préoccupation principale du monde, c'était la guerre?
Et absolument, la guerre faisait partie des données fondamentales de l'être humain. La rivalité entre les êtres est une donnée permanente de l'identité humaine. Or, ce que nous autres, les enfants d'Israël, amenons au monde, c'est cette idée que l'on peut transformer l'identité humaine et la consacrer à la paix. C'est ce que le Talmud appelle le commandement qui est donné aux nations au moment du jugement de la fin de l'histoire, qui est de faire une soukha. La soukha, la cabane de Sukkot, c'est le lieu traditionnellement de la paix entre les enfants d'Israël. Et si les nations également sont invitées à faire une soukha, ça veut dire qu'elles sont invitées à faire la paix.
Alors, il y a eu un moment dans le discours où moi j'ai frissonné, je me suis senti sur une autre planète, c'est ce moment-là.
Stand up for a minute alone, stand up, there you go, There. Ari. Ari, you are the spirit of Joshua. You are the spirit of David. You are the spirit of the Maccabees. You are the spirit of Israel. I salute you. We all salute you.
Bibi, Benjamin Netanyahu, tu es l'esprit de Josué, tu es l'esprit de David.
Ça, j'ai pas entendu ça.
Tu es l'esprit des Maccabées. Tu es l'esprit des Maccabées, tu es l'esprit d'Israël. Sacrée référence quand même. Ça veut dire que là, on parle pas de... Déjà, moi, tout de suite, je dis pourquoi que eux, pourquoi que Yoshua, pourquoi... Bon, Maccabim, je comprends un petit peu, mais Yoshua, David, pourquoi pas Moshe, pourquoi pas Avraham, Yitzhak, Yaakov. Est-ce que, Arav, peut nous rentrer un petit peu dans c'est qui Yoshua, c'est qui David, c'est qui les Maccabées et c'est qui Israël?
Yoshua, David et les Maccabées, c'est tout simple. C'est Israël qui sait combattre. Or, combattre, traditionnellement dans la culture occidentale, disons de l'obédience chrétienne ou christianisante en ce cas, la lutte est considérée comme un mal. Même quand c'est justifié, finalement, l'application de la force, de la violence, est toujours mise dans le cadre du mal nécessaire. Et donc ça crée une sorte de dichotomie terrible dans l'être humain qui, d'une part, voudrait être bon, mais il sait qu'il doit être méchant. Tandis que ce que nous ont enseigné justement ces grandes figures de la Bible, y compris également les Maccabées qui viennent après la Bible, c'est qu'il y a une sorte de ce qu'on appelle l'unité des valeurs. Cette unité des valeurs exige justement l'application de la force quand cela fait partie de la réalisation de la justice. D'ailleurs, vous savez, quand on parle du Messie, alors pour les chrétiens, le Messie vient pour amener l'amour sur terre. Mais nous, l'amour, on le connaît déjà. Nous avons « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça, on l'a appris déjà bien avant le Messie. Mais si on voit les textes de la Bible, le Messie vient pour faire la justice, pour appliquer la justice. Or, cette justice exige également les sanctions du mal. Et c'est ça, effectivement, que Netanyahou a pu discerner, a pu diagnostiquer chez ce grand combattant.
La justice est plus importante que la paix ?
La justice, c'est la véritable paix. Sinon, si vous avez un pacte de non-agression, ça veut dire qu'on reste ennemi en vérité. Mm-hmm. Mais si vous voulez véritablement la paix, c'est que chacun reçoit de manière juste ce qu'il doit recevoir, y compris son territoire.
Dans Tehilim, Arav, il y a deux contradictions de David Ameller. David Ameller a écrit les Tehilim, je les ai traduits en français, Arav, et vous m'excuserez du français.
Les psaumes.
Les psaumes, exactement. Mais je les ai faits en français pour téléspectateurs. Peut-être la traduction n'est pas excellente. David dit « Béni sois-tu éternel mon rocher, qui enseigne à mes mains la guerre et à mes doigts le combat. » Mais dans un autre Tehilim, il dit « Ceux-ci se confient en leurs chars, ceux-là en leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. » En gros, d'un côté, il dit, il faut faire la guerre avec les mains, les bras et se combattre. D'un autre côté, il dit, si tu fais confiance, tu es en charge.
Il y avait une contradiction. Quand David parle de ses doigts, de ses mains, il dit que c'est Dieu qui lui donne la force de le faire. Donc, je ne vois pas très bien la contradiction. Eux, nos ennemis, font confiance dans leurs armes et dans leurs armées, tandis que nous, quand nous appliquons la guerre, quand nous faisons la guerre, nous savons que nous venons au nom d'un certain idéal et non pas au nom d'un Dieu violent tel qu'il est, par exemple, prôné par les frères musulmans.
Et ça, c'est grave. Maintenant, j'aimerais rentrer dans une autre partie du discours de Monsieur Donald Trump. Donald Trump, au tout début de son discours, il commence par quelque chose d'extraordinaire. Et là, hein, moi, j'étais toujours dans ça et je vous dis, j'ai tremblé.
Nice job, baby.
J'ai tremblé, j'ai frissonné en entendant tout ça parce que je me dis, on réalise, ça y est, c'est ma chère, il est là, on y arrive.
Mr. President, Mr. Prime Minister,
c'est au tout début.
Mr. Speaker, esteemed members of the Knesset and cherished citizens of Israel, we gather on a day of profound joy, of soaring hope, of renewed faith, and above all, a day to give our deepest thanks to the Almighty God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Avraham, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob devant l'avenir d'Israël. La formulation exacte de la Torah dans les prières, on le dit 3 fois par jour. Il parle après plus tard et on va en reparler des accords d'Abraham. Les enfants d'Abraham travailleront ensemble. Trump n'est pas un juif. C'est un chrétien évangéliste. Il y a son gendre, Jared Kushner, qui lui est juif. Sa fille Ivanka s'est convertie. D'ailleurs, il le dit pendant le discours. Il parle de sa fille qui s'est convertie, que ça l'a surpris, mais que pourquoi pas. Il y a un précédent dans la Torah. Il y a un précédent dans la Bible. C'est Cyrus le Grand, Koresh. Koresh, roi perse, qui a permis aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Le prophète Ishaïou l'appelle Mashiach. Loin de Dieu, bien qu'il soit non juif, est-ce que Trump est le Mashiach?
Vous savez que c'est un peu ce que le Rav Kook a dit de Balfour en son temps, dans le discours que le Rav Kook a prononcé après la déclaration Balfour. Balfour aussi était un chrétien évangélique. Il voyait dans le retour d'Israël la réalisation d'un événement biblique. Et le Rav Kook a également parlé à son propos de Cyrus. Et il a fait une petite remarque, c'est que dans le Talmud, on dit que Cyrus a changé d'avis finalement. Au début, il a voulu construire le temple, et puis après, il a mis des bâtons dans les roues. Mais il dit, Balfour, lui, n'a jamais mis les bâtons dans les roues, il a continué sa fidélité à Israël. Et donc, nous pouvons, disons, bénir le président Trump pour ce qu'il ne change pas d'avis. D'ailleurs, le Rav Kook disait, je ne remercie pas l'Angleterre d'avoir reconnu le droit d'Israël sur sa terre, je les félicite d'avoir rempli leur rôle. C'est très important. D'ailleurs, il y a également un précédent à Cyrus, c'est quand Jéthro, Jéthro, le beau-père de Moïse, arrive au mont Sinaï, il entend ce qui s'est passé, le passage de la mer Rouge et tout ça, et il dit béni soit Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Et le Talmud dit, c'est un reproche qui est adressé à Israël. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre qu'un non-juif vienne le dire, alors qu'on aurait dû le dire avant lui? En tout cas, c'est probablement l'accomplissement d'un texte dans les psaumes également. C'est lorsque les nations diront que Dieu a fait de grandes choses avec ceci, que nous pourrons dire Dieu a fait de grandes choses avec nous, et on me rajoute, et alors nous serons joyeux. Aïnou s'émerit.
Il y a Abraham, il ne s'appelait pas Abraham au début, il s'appelait Abram. Est-ce qu'on peut comparer, et ça c'est quelque chose que moi j'ai réfléchi dans ma tête et j'aimerais bien avoir retour, est-ce que le monde utilise jusqu'à maintenant Abraham, et maintenant il commence à utiliser Avraham comme le disent les juifs, est-ce que ça a une signification du fait que le monde commence à appeler Avraham par son vrai nom?
C'est-à-dire qu'on voit que la référence biblique passe par les enfants d'Israël. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans la Bible chrétienne, il est dit « le salut vient des Juifs ». Alors, ça a été dit d'une manière, disons, un peu diaphane, mais aujourd'hui, ça prend consistance. C'est-à-dire, il est probable que les nations commencent à comprendre que leur foi a pour origine la lecture des enfants d'Israël. Rabbi Nachman de Breslav disait que lorsque les enfants d'Israël font de la charité l'un envers l'autre, alors l'air du monde devient plus pur et les nations découvrent la foi d'Israël dans leur propre texte. C'est écrit en toutes lettres dans le Likutei Mohara.
Tout est marqué en fait.
C'est intéressant ce que vous dites parce que quelqu'un une fois a demandé à Manitou dans un cours, je me rappelle, on a l'impression quand on lit ces textes que notre histoire est écrite à l'avance. Et Manitou a répondu, non seulement c'est vrai, mais le problème c'est que on se permet parfois d'avoir des opinions personnelles alors qu'il y a des textes que l'on peut consulter.
Dans Zechariah, Arav, le prophète dit « En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues saisiront le pan du vêtement d'un juif en disant « Nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous ». Les nations arabes se rapprochent d'Israël sous l'égide des accords d'Abraham. Accomplissent-elles ces nations-là musulmanes, et on peut parler des États-Unis, accomplissent-elles cette prophétie? Et est-ce une alliance pragmatique sans dimension messianique?
Alors, écoutez, c'est très simple. Il y a dans le monde musulman 3 options possibles. La première, celle qui est, disons, extrémiste et qui est représentée par les frères musulmans, qui n'admettent absolument pas l'idée d'une paix avec Israël, qui, de leur point de vue, de leur théologie, doit être éradiquée. Alors, ils comprenaient qu'avec ça, rien faire. Il y a la deuxième option qui semble être celle des accords, par exemple, de paix avec la Jordanie, avec l'Égypte, éventuellement avec la Syrie, qui est une sorte de pragmatisme prôné également par la théologie musulmane, ce qu'on appelle la houdna. La houdna, en fait, est une trêve. Ce n'est pas véritablement une paix. D'ailleurs, quand il y a eu les accords de paix avec l'Égypte, alors il y avait écrit en trois langues, en hébreu « shalom », en anglais « peace » et en arabe « sulha ». Il n'y avait pas « salah ». Ce n'était pas la paix, c'était une sorte de réconciliation comme on fait entre des tribus rivales qui veulent arrêter l'effusion de sang. Mais il y a également une troisième option. Et cette troisième option commence à pointer dans différents milieux du monde musulman, un peu partout, j'ai des contacts permanents, qui est la reconnaissance du fait de l'État d'Israël comme étant un événement positif, comme étant l'accomplissement des prophéties, et avec l'aval du Coran lui-même. Non seulement le Coran affirme ce qui est connu, que cette terre a été donnée aux enfants d'Israël. Or, si elle est donnée aux enfants d'Israël par Dieu, on ne peut pas y renoncer. Il est interdit de donner même un pouce de territoire. Mais il y a beaucoup plus que cela. Il y a également une sourate qui dit que les enfants d'Israël reviendront à la fin de l'histoire sur leur terre. Or, le fait du retour de ce que le Coran appelle les Banu Israël, les enfants d'Israël, sur la scène de l'histoire, en fait, rétablit l'histoire dans son véritable équilibre, du point de vue même du Coran. Et donc, on peut dire qu'il y aurait un intérêt à une réconciliation véritable entre les enfants d'Ishmaël et les enfants d'Yitzhak. Et ça, je l'entends déjà dans différents cercles du monde musulman lui-même. C'est ça qu'il faut développer. Il faut surtout ne pas tomber dans cette idée que la paix est une bonne chose uniquement parce qu'elle permet de ne pas s'entretuer. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y aurait une sorte de bénédiction pour tous les peuples de la terre. L'islam pourrait sortir de son marasme et de sa sclérose que l'on connaît bien.
Alors, vous êtes plus un spécialiste que moi dans ça, mais quand moi je vois avec qui vous parlez, etc., avec ce que vous avez fait avec le monde arabe. C'était plus avec le monde arabe occidental, c'est comme ça que moi je le vois, avec l'Arabie Saoudite, des gens qui ont, entre guillemets, pas de soucis d'argent, pas de soucis d'argent, mais qui sont plus occidentaux. Je vois le musulman français, quand il voit Israël, lui, à mon avis, serait beaucoup plus dans deuxième solution, la Houdna, ou même la première.
Alors non, ça traverse tous les milieux.
Okay.
Également, d'ailleurs, j'ai pu avoir une discussion téléphonique avec un musulman de Lyon.
Okay.
Qui me dit, mais c'est très simple, vous êtes les représentants de Dieu sur Terre, etc. Donc, vous trouvez ça un peu partout. Vous pouvez voir également dans des tribus qui vivent dans des conditions extrêmement de pauvreté, même dans différents secteurs du monde musulman lui-même, en Irak, en Iran, partout, en Syrie.
Je vois l'imam Chalgoumi. Je vois comment il est critiqué, je vois comment... parce que lui, l'imam Chalgoumi, c'est plutôt cette troisième solution qu'il amène, c'est on peut vivre ensemble, on va faire la paix, et je vois les réactions autour de lui, j'imagine que ces gens ne sont pas d'accord avec lui.
D'accord, Chalgoumi est un individu. En tant qu'individu, alors il a beaucoup de courage, donc il peut également se faire attaquer, mais ce dont je parle ici, c'est d'une mouvance. Mmh. Et cette mouvance, on peut la trouver dans des cercles extrêmement larges, qui, pas toujours, osent émerger sur la surface, mais qui travaille en profondeur.
Alors, pour revenir à notre discours de Benjamin Netanyahou, il a aussi cité d'autres personnes dans le Tanakh. Il ne s'est pas arrêté. Yoshua, David, il a cité des femmes. Il y a une dame qui a perdu sa famille, qui a sauvé des gens. Son mari a sauté sur une grenade et c'est comme ça qu'il parle d'elle.
Sabine Tassa of Kibbutz Netiv Asara is watching us today from the Israeli consulate in Los Angeles. Sabine lost her husband and her oldest son on October 7th. She is the mother of three other boys. Two of them, Cohen and Shai, witnessed their father jump on a Hamas grenade to save his two sons. We all saw the film of those two boys crying out in pain. Father is dead. Why? Why did God save me? Mr. President, my friend Donald, I've seen some very tough things in my life. But I couldn't bring myself to watch those boys suffering again. So I didn't see this film except once. Yet Sabine, their mother, has had the strength and fortitude to show this film across the world. And my wife Sarah and I asked her, Sabine, how do you do it? Why do you do it? And she answered, I do it to show the entire world the monsters Israel is fighting and the justice of our cause. This is what she's doing once again in Los Angeles. Sabine, you can hear me now. So I want to tell you on behalf of all of us, you embody the spirit of our biblical heroines, Deborah, Ruth, and Esther. You too are the spirit of Israel, and we all salute you.
Moi, j'ai deux questions. Première question pour un rabbin et deuxième question pour un rabbin. Première question, est-ce que on a vu ces vidéos et il en parle, Bibi, qu'il a vu cette vidéo, qu'il peut plus les revoir, etc. Est-ce que nous, la pensée de Zahor et Amalek. Il faut se rappeler d'Amasekhet Aferbeg. Est-ce que on a un devoir de revoir des vidéos comme ça une fois par an, une fois tous les 10 ans, tous les 7 octobre pour se rappeler de ce qui s'est passé le 7 octobre, ou est-ce que c'est trop dur? Il faut se dire, écoute, j'oublie.
Et si la Torah nous dit, souviens-toi, ça veut dire que la tendance naturelle est d'oublier. Et on oublie souvent l'horreur. C'est-à-dire parfois l'horreur est tellement grande qu'on peut même se dire, ça ne s'est pas passé. Vous savez, on parle souvent du négationnisme de la Shoah. D'une certaine manière, les plus grands négationnistes sont ceux qui ont traversé la Shoah eux-mêmes. Ils ne veulent pas en parler. Mm-hmm. Nous savons que des personnes pendant 50 ans, 60 ans n'ont rien dit. Parce qu'elles ont vu le pire du mal. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, il faut surtout ne pas oublier. Maintenant, pourquoi c'est tellement important? C'est parce que ce sont des situations qui se produisent de manière exceptionnelle dans l'histoire. Ce n'est pas la permanence. Or, si on oublie ces événements, quand l'événement se produit, on ne sait pas comment réagir. C'est pour ça que la Torah nous dit, souviens-toi parce que tu risques un jour ou l'autre de le retrouver. Et donc, c'est important d'entretenir la conscience de ce mal. Alors évidemment, il faut peut-être demander l'avis de certains psychologues qui vous diront, attention, il y a des traumatismes, etc. C'est vrai, il faut en tenir.
Il y a des vidéos, c'est vrai.
Oui, aussi, évidemment. Mais l'entretien du souvenir fait partie du devoir d'Israël. Israël est le peuple du souvenir qui traverse l'histoire. Et c'est pour ça que la Torah dit, la plupart de tes commandements, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Et l'Égypte, c'était il y a déjà plus de 3300 ans. Et pourtant, il faut s'en souvenir. Parce que si on oublie ce que c'était que l'Égypte et qu'est-ce que c'est que sortir d'Égypte, nous ne savons plus qui nous sommes nous-mêmes.
Donc il faudrait revoir des vidéos de temps en temps, tous les ans.
C'est une question de stratégie. Bon, il y a une institution très importante en Israël, Yad Vashem. Mm-hmm. Yad Vashem qui, parfois, est utilisée pour prétendre que ça serait la justification de l'État d'Israël, ce qui est évidemment une absurdité. Mais il est important de comprendre que ça fait partie des événements constitutifs de notre identité. Et on ne peut pas ignorer son identité, par quoi on est passé. Mm-hmm. Même, ce qui est important, c'est surtout de savoir, si on en est sorti, alors vers quoi on va. Si je sais d'où je viens, je sais où est-ce que je vais, dit Maseret Avot.
Notre premier ministre, Benjamin Netanyahou, cite Déborah, Ruth, Esther. Déborah, juge, prophétesse, chef militaire, Ruth, modèle de loyauté, converti, ancêtre du roi David. Esther, reine de Perse, qui sauve son peuple par la ruse politique.
Au risque de sa vie.
Pourquoi ces trois-là pour une mère endeuillée moderne, entre guillemets?
Nous sommes parce que de chacune de ces figures, nous avons quelque chose à apprendre. Tout d'abord, ce que dit Déborah, quand elle dit dans son cantique après la victoire, elle fait une sorte de revue des différentes tribus, qui a participé à la guerre, qui n'a pas participé, et elle a des paroles très dures envers la ville de Méroz, qui n'est pas venue à l'aide de Dieu. Alors on dit en cela, avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem, mais elle dit Le'ezrat Hashem. C'est à nous de venir à l'aide du Créateur. Et ça, c'est un premier point très important. Ça implique une relation active envers la divinité, et non pas la passivité. Ça, c'est le premier point. Pour ce qui est de Ruth, c'est de reconnaître la prééminence morale de l'être d'Israël. Quand Ruth décide de s'attacher au peuple d'Israël, elle dit tout d'abord « ton peuple est mon peuple » et après elle dit « ton Dieu est mon Dieu ». Ce n'est pas par de la théologie que Ruth est venue à Israël, mais c'est par le contact avec la réalité existentielle du peuple d'Israël. Et c'est ça également que représente cette Sabine, que nous révérons tous, que nous vénérons tous, et également Esther. Esther est prête, au risque de sa vie, de faire ce qu'il faut pour sauver l'ensemble de son peuple. Et je pense donc que Netanyahou a très bien choisi les personnages féminins de la Bible qui représentaient le courage de cette dame.
Dans tout ce discours-là, on va parler de deux choses très importantes, de deux terrains très importants. On va parler de la Judée-Samarie et de Jérusalem. J'aimerais vous montrer cette vidéo parce que je sais que vous la connaissez et que vous l'avez déjà vue, mais je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne l'ont pas vue. Et comme ça, sur le montage, ça permet qu'on soit tous synchronisés.
Thank you for recognizing in your 2020 peace plan our rights in Judea and Samaria, the ancestral homeland of the Jewish people.
Et t'as vu Herzog qui s'est levé ?
Oui, oui.
Très bonne.
Entre promesses divines et réalité géopolitique, comment le judaïsme contemporain navigue-t-il ?
Si vous n'avez pas de référence culturelle même, si vous n'avez pas un ethos réalisateur de votre identité, alors toute votre puissance géopolitique n'a aucun sens. C'est-à-dire une nation qui n'a pas le sentiment qu'elle lutte pour quelque chose qui en vaut la peine, même si elle a tous les éléments nécessaires pour faire la guerre, elle ne peut pas gagner. Vous ne pouvez gagner que si vous avez le sentiment que vous venez au nom de certaines valeurs. Or, si vous n'êtes pas enraciné dans la Judée et la Samarie, qui sont les lieux où la Bible s'est faite, alors qu'est-ce que vous faites à Tel Aviv ?
On a tout à l'heure parlé de Et Shalom. Est-ce que la paix ne vaut pas ces terrains-là ?
Alors, si vous parlez de la paix, le mot en hébreu shalom, ça veut dire entier, l'intégralité. L'intégralité, c'est pas de l'intégrisme, évidemment, c'est de l'intégralité de la justice. Et donc, si Israël a un droit ou un devoir d'existence, c'est justement en relation avec cette terre. Or, si cette terre est abandonnée, alors ce n'est plus Israël. Si nous n'avons pas notre terre, nous ne sommes plus ce que nous sommes. Et si nous voulons arriver à une paix véritable avec l'ensemble des nations, avec également le monde musulman, avec également le monde entier, cela doit se faire à partir de la reconnaissance des valeurs fondamentales. Or, les valeurs fondamentales, c'est que cette terre est destinée aux enfants d'Israël, non pas comme un cadeau, mais comme une mission. Et alors, dans ce cas-là, le droit des individus sera réglé à partir de la reconnaissance de cette vérité, pourrait-on dire. C'est là qu'on peut véritablement parler de paix.
Rav Trem parle aussi de Jérusalem comme capitale ancienne et éternelle, centre des saints des trois grandes religions abrahamiques situées entre le mont occidental, le mur occidental, le mont du temple et la colline appelée calvaire. C'est une formulation très économique, ça veut dire, du point de vue juif, quelle est la base de cette éternité ? Et je vais vous poser une question, alors, depuis quand Jérusalem est-elle considérée comme capitale éternelle du peuple juif ? Est-ce depuis le roi David, ou depuis Abraham, ou depuis la création du monde, selon le Midrash ?
Jérusalem est le cœur de l'humanité depuis le livre de Devarim, le Deutéronome, dans lequel il est dit « Il faudra que tu amènes tous tes sacrifices dans le lieu que Dieu choisira ». Et ce lieu a été choisi. Et il est très différent, si vous voulez, de tous les autres lieux de culte du monde dans lesquels il y a toujours une relation directe avec la nature. Tandis que le mont du Temple est un lieu qui était inconnu des idolâtres avant son élection par le Créateur. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que c'est le lieu où peut se manifester la transcendance. Maintenant, quand vous parlez d'œcuménisme, alors souvent on dit, bon, Jérusalem étant la capitale du monde, elle doit être internationalisée. C'est ce que voulait l'ONU lors de la création de l'État d'Israël.
Ils veulent encore, hein.
C'est ce qu'ils peuvent encore. Mais c'est une incompréhension très grave parce que une Jérusalem internationale, ça voudrait dire un grand musée. un musée dans lequel vous voyez, bon, alors il y a une mosquée, il y a un mur, il y a un caveau, etc. En fait, c'est bon pour l'UNESCO. Mais si vous voulez que cette ville soit véritablement la ville universelle, il faut qu'elle soit dans les mains d'une nation universelle. Cette nation universelle, c'est les enfants d'Israël. Ce sont eux qui ont été choisis par la Providence pour diffuser un message universel.
Alors, Trump mentionne le mont du Temple. Et moi, j'étais très surpris parce que c'est un sujet qui fait trembler le monde entier, le mont du Temple. C'est-à-dire, il suffit qu'on y pense et ça déclenche des guerres. C'est pour un peu rappeler à nos téléspectatrices et spectateurs, c'est le mont du Temple, c'est le seul endroit au monde, je pense, où les juifs n'ont pas le droit de prier officiellement. Aujourd'hui, ils s'arrangent petit à petit parce qu'ils voient la demande, ils voient ce qui se passe. Comment vous arrivez à mettre en relation tout ce qui est en train de se passer, ce Et Shalom qui arrive et tout ça, et le fait que jusqu'à maintenant, en plein milieu de Jérusalem, on a une partie qui ne nous appartient pas encore, et c'est pas n'importe quelle partie, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est le mont du Temple.
Le mont du Temple, c'est le lieu de la vérité. Or, la vérité est que lorsque les Arabes ont fait la conquête de Jérusalem, ils l'ont conquis de l'Empire byzantin, à cette époque, le lieu du Temple était vide. Le Temple avait été détruit déjà 500 ans auparavant. Ils arrivent dans un lieu vide. Et c'est alors que les Arabes se demandent, mais où faire notre mosquée centrale? Et après différentes considérations, ils décident de faire une mosquée dans la partie sud du mont du Temple, ce qu'on appelle la mosquée des Laksa, qui est en dehors du lieu saint. Et ça, par respect pour le temple des Juifs. Ce n'est que plus tard qu'a été construit un dôme, le dôme du rocher, par Abdelmalik, le calife, qui a fait cela par respect pour la tradition juive. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, à l'intérieur du dôme, il est écrit en arabe « Ceci est le lieu du temple », ce que les Arabes appellent « Haïkal Sulaiman », c'est-à-dire le sanctuaire de Salomon. Et donc, en fait, à l'origine, il était tout à fait évident pour même les extrémistes arabes que si déjà il y a un lieu saint pour eux sur le mont du Temple, c'est la mosquée d'El-Aqsa qui est dans le sud. Tandis que le reste fait partie du temple de Jérusalem. Or, aujourd'hui, il y a un négationnisme très grave, puisque les Arabes prétendent que l'ensemble du mont du Temple, c'est ça El-Aqsa. Et donc, chaque pas fait par les Juifs sur ce lieu, c'est considéré comme une profanation d'une mosquée. C'est absolument ridicule. Or, c'est ça qu'il faut rétablir. Il faut rétablir la vérité même du point de vue de la tradition musulmane.
Je vais être un peu...
Et c'est là que, si vous êtes capable de parler de paix, c'est là qu'il y aura, de vérité, c'est là qu'il y aura véritablement la paix.
Je vais être un peu simpliste, mais oui. Moi, quand je vois Al-Aqsa, et je vois à côté le dôme d'or, et ben je me dis, entre les deux, le plus important, c'est le dôme d'or. Regarde comment il est beau, regarde comment il est grand, et regarde Al-Aqsa, tout en noir, comme mosque.
Cela prouve justement qu'il y avait une conscience implicite chez les premiers musulmans qu'ils sont une sorte de branche issue du judaïsme. Et donc le respect pour le lieu du temple faisait partie intégrante de leur foi. Et donc, d'ailleurs, ce dôme d'or a été doré très tardivement.
Bien sûr.
Oui.
C'était pas prévu, mais j'ai une question. Et j'ai l'impression que les musulmans et les chrétiens, quand ils vous entendent parler, quand on parle en général, ils ont l'impression qu'on cherche à les annuler, à les convertir. Pas en faire des juifs, parce que le monde juif ne cherche pas forcément conversion, mais à dire, vous avez tort, vous vous trompez, nous on a la vérité, nous on est le peuple élu. Est-ce que c'est ça l'objectif au final, c'est d'annuler ces musulmans, d'annuler ces chrétiens pour en faire des gens pour Israël? Vous voyez ce que je veux dire?
Il est absolument, simpliste de vouloir annuler des intuitions religieuses.
Je vous ai dit que c'était simple au début. Hein.
Oui. C'est-à-dire, on ne peut pas effacer une sensibilité qui s'est créée au cours des siècles. Simplement, ce n'est pas faire un bon service à ces sensibilités que de les maintenir dans des erreurs qui peuvent les couper de leurs racines. C'est-à-dire quand, par exemple, l'islam affirme que les juifs ont effacé intentionnellement le nom de Mahomet de la Bible, cette accusation qui est en fait ridicule, ne fait que les couper de leur origine. De même pour les chrétiens, lorsque les chrétiens affirment que toute la sainteté dans le monde est concentrée dans un personnage, dans un homme, au lieu de reconnaître qu'à travers cet homme, ils ont pu recevoir la lumière diffuse d'Israël, ce n'est pas leur faire un bon service que de les maintenir dans cette idée-là. Maintenant, il y a évidemment une profonde admiration de la part des Juifs eux-mêmes pour cette évolution extraordinaire qui, du monde païen, a amené la plus grande partie de l'humanité à se concentrer autour du message de la Bible. Et donc, nous n'annulons personne, nous ne faisons que remplir notre rôle de lumière pour les nations.
Bibi parle énormément de Hope of Israel, de Tikva. La Tikva, c'est une partie centrale du peuple juif, c'est l'hymne national. Qu'est-ce que vous imaginez quand vous voyez et quand vous espérez la Tikva? C'est quoi l'objectif?
Il s'agit tout simplement du rétablissement de ce qu'on appelle la civilisation des prophètes. Alors, il ne faut pas rentrer dans la nostalgie du passé. C'est-à-dire, le retour des prophètes n'est pas un retour à un style d'expression ou de vécu tel qu'il a été connu dans l'Antiquité. C'est quelque chose vers lequel on va. D'ailleurs, le mot « tikva », espoir, vient du mot de la racine grammaticale, ça vient de « kav ». « Kav » qui est une ligne. Or, une ligne est infinie. Et si vous définissez un peu trop précisément vers quoi vous allez, alors ça veut dire que vous y êtes déjà. Tandis que si vous avez l'espérance véritable, l'espérance est un optimisme qui vous mène, on ne sait pas où. Mais en tout cas, cet inconnu n'est pas effrayant. Au contraire, c'est la certitude que le monde est mené par un créateur qui veut le bien de sa créature. Donc, il faut être optimiste.
Alors, c'est un ressenti ou c'est du concret, la Tikva?
Alors, c'est un ressenti, évidemment. C'est-à-dire que les enfants d'Israël savent très bien qu'ils vont vers quelque chose de merveilleux, qui est merveilleux d'ailleurs pour l'humanité tout entière. Maïmonide lui-même disait, on ne sait pas exactement les détails de cet avenir, parce que même les prophètes qui en parlent ne savaient pas exactement de quoi ils parlaient.
Alors, nous, on a exploré plein de références bibliques, les héros, les héroïnes, la terre, la mémoire, on a parlé de Jérusalem, de la Judée-Samarie, mais il est temps, Rav, qu'on pose des questions un peu plus difficiles.
Allez.
Un peu plus critique, car tout usage intensif de la Bible, parce qu'on rappelle 14 références au Tanakh dans ces discours-là, dans un contexte politique, soulève des questions de manipulation. Et a-t-on le droit d'utiliser le Tanakh, la Bible, pour des intérêts politiques, en utilisant un petit peu le ressenti, etc., par rapport à quelque chose que tout le monde connaît, s'inspirer de la Bible pour guider une nation, utiliser la Bible pour légitimer toute décision politique, a-t-on le droit, hiératiquement parlant, de faire ?
Ce n'est pas un droit, c'est un devoir.
Ok.
Étant donné que si vous êtes dans une situation de conflit, vous devez savoir quelle est la nature du conflit. Or, il y a un poncif qui est souvent repris dans certains cadres de la société israélienne. Si le conflit devient religieux, il sera insoluble. Alors, c'est comme si on disait, vous avez une maladie pour laquelle je n'ai pas de médicament, mais j'ai un médicament pour une autre maladie. Donc, c'est celle-là que vous avez. Non, il faut savoir la nature du conflit. Les athées pensent que Dieu n'existe pas. Mais en tout cas, il est le personnage central de ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc, on ne peut pas faire abstraction, justement, de la référence biblique. Non pas simplement par, s'il est idéologie dogmatique. C'est pas ça dont il s'agit. C'est de comprendre la nature véritable des relations qui s'établissent entre les populations. Or, ces relations sont profondément ancrées dans la tradition biblique.
Bon, je ne vais pas me faire que des amis, mais on ne peut pas dire que Benjamin Netanyahu est un grand religieux, on ne peut pas dire qu'il prie tous les jours, etc. Oui. Quand il utilise ces références-là, c'est avant tout pour mettre en avant un idéal politique et un idéal personnel.
Dieu n'est pas religieux. C'était Franz Rosenzweig qui disait « Dieu n'a pas créé la religion, il a créé le monde ». Et donc, le fait que le créateur du monde manifeste son projet à travers différentes options humaines, entre autres d'ailleurs par une laïcité qui est celle de Netanyahou, évidemment, ça ne veut pas dire que Netanyahou devrait être religieux pour faire partie du plan de l'histoire. Le plan de l'histoire se réalise à travers énormément de dimensions. Et ces dimensions passent parfois par des identités justement plus pragmatiques. Je pense que le fait que Netanyahu ne soit pas religieux, c'est ce qui lui permet justement de faire avancer l'histoire. S'il était trop religieux, je me permets de le dire, alors dans ce cas-là, il pourrait peut-être trop faire confiance à la Providence et ne rien faire.
Vous souhaitez, alors j'ai peur d'entendre, je veux le clarifier de suite, vous souhaitez qu'aux prochaines élections, novembre 2026, donc dans moins d'un an, dans un an exactement, un non-religieux soit élu? Ou vous espérez que demain ce soit un
offert? Ce qui est important, c'est que celui qui sera élu fasse son travail. Et ce travail est le travail voulu évidemment par la Providence, mais ça ne passe pas forcément par le fait de respecter le Shabbat avec toute l'importance que j'accorde à ça. Je suis, d'ailleurs je fais une déclaration très claire, je suis pour le respect du Shabbat.
Merci de la précision, Rav. Dernier extrait, hyper important, de notre ami Trump.
New bonds of friendship, cooperation and commerce will join Tel Aviv to Dubai, Haifa to Beirut, Jerusalem to Damascus, and from Israel to Egypt, from Saudi Arabia to Qatar, from India to Pakistan, from Indonesia to Iraq, from Syria to Bahrain, Turkey to Jordan, the United Arab Emirates to Oman, and Armenia to Azerbaijan, another war that I just settled.
Ouais. J'aurais pensé que dans les temps messianiques, ce soit le peuple juif qui dit ça. C'est que c'est le peuple juif qui veut relier ce monde-là, faire la paix avec le monde, aider les gens à s'élever. J'aurais pensé que voilà, c'était au peuple d'Israël de faire ce job et pas aux États-Unis d'Amérique qui se trouvent à l'autre bout du monde et qui ne fait pas ça pour les mêmes raisons que nous.
Oui, mais c'est... n'oubliez pas que cette déclaration se fait à la Knesset.
Ah.
Et donc, c'est comme si cette nation américaine avait le sentiment que pour annoncer ce genre de règlement international, il faut le faire à Jérusalem.
Alors, nous voici arrivés au terme de cette entretien. On va rentrer dans une conclusion. On a analysé deux discours prononcés le même jour devant les députés israéliens, deux hommes, deux visions, mais un langage commun, celui de la Bible, des prophètes, de l'espoir messianique.
Le mot messianisme n'a pas été prononcé une seule fois.
Le mot messianisme n'a pas été prononcé.
Pas une fois.
Non, il n'a pas été prononcé. Mais pourquoi? Mais en fait, il a été sous-entendu tellement de fois, parce qu'en fait, je pense que Trump se prend pour le Messie et Bibi aussi. Est-ce que c'est possible?
Disons que le messianisme est un terme qui a été dévié de son sens originel. C'est mal vu. Alors, je pense que c'était par prudence, justement, que ce terme n'a pas été employé. Surtout que, parce que dans ce cas-là, ça pourrait ouvrir tout un conflit. Qui est le Messie? Et donc, on a préféré mettre ça de côté. En tout cas, on a parlé d'espérance, ce qui est beaucoup plus pertinent.
Après avoir exploré ensemble ces discours, si vous deviez résumer ces deux discours et cette histoire-là de ce qui se passe en ce moment, comment vous le feriez, Rav?
Ça veut dire que nous avons quelque chose de très simple. Ça veut dire que Israël, qui est le cœur des nations, commence à battre. C'est-à-dire un cœur qui était en léthargie pendant très longtemps, maintenant est ressenti comme la source de vie pour l'humanité. Et c'est tout à fait normal qu'au moins une nation s'identifie à cela. Nous attendons que l'ensemble des nations participent.
Rav, merci beaucoup au nom de tous ceux qui vont regarder cet entretien. Je vous remercie infiniment de nous avoir ouvert cette analyse, pas théologique, mais cette analyse israélienne, biblique, profonde, nuancée, dans un monde où politique et religion s'entremêlent constamment. Votre voix nous aide à mieux distinguer, à Rav, l'authenticité de l'instrumentalisation qui est fait parfois de la Bible, du Tanar et de tout ce qui se passe autour de la religion, même en général. La Gemara nous dit, écoute, la voix du sage, Shema Kol Chacham. Merci à Rav de nous avoir reçus et à très bientôt.
Merci, le plaisir est partagé.
Les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce petit entretien que j'ai eu avec le Rav Uri Cherki. Je vous invite bien sûr à mettre un pouce bleu, partager, laisser des commentaires. Tenez-moi au courant ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu dans cette vidéo, cet entretien. Ou avec les entretiens avec le Rav Fison, avec le Rav Cherki, avec le Rav Benarouche, etc. Ces vidéos-là sont faites pour vous, donc n'hésitez pas à nous faire des retours, à Oro d'équilibre, à moi-même, et on essaiera toujours de vous donner le mieux. Je compte sur vous pour bien sûr partager, liker, etc. Mais on l'a déjà dit, en vous souhaitant le meilleur, des très bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël et pour le monde entier. Shalom, shalom.